Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 30 septembre, bonsoir à tous, bon début de semaine, l'actualité s'accélère, ça tombe bien, nous sommes là pour vous en rendre compte, soyez les bienvenus. Au sommaire de ces 3 heures d'info, le débat du jour à suivre à l'heure de la politique française ce soir. À la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, eh bien nous évoquerons le rôle du Rassemblement National avec cette question. Est-ce que le parti de Marine Le Pen est aujourd'hui le maître du jeu politique en France? 18h10 TU, le décryptage. Ce soir au Liban, la mort du leader du Hezbollah ouvre une période d'incertitude alors que les bombardements d'Israël se poursuivent. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, Sylvie Berruet. 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe sera ce soir en Turquie où les réfugiés afghans craignent d'être expulsés. Enfin, le grand reportage ce soir dans le Michigan est à clé dans la course à la Maison Blanche aux États-Unis et où l'inflation est au cœur du vote ouvrier. Voilà pour le programme, mais pour le moment c'est le grand journal du soir et c'est Martin Guest qui est à mes côtés. Bonsoir Martin.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à toutes et à tous.
Et on va débuter cette édition au Liban avec la crainte d'une intervention militaire au sol de l'armée israélienne.
Une crainte partagée par le président américain Joe Biden qui s'est déclaré contre et appelle à un cessez-le-feu et par le nouveau chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot qui donnait une conférence de presse ce lundi à Beyrouth. Laure Stéphan y était pour RFI, nous la retrouverons dès le début de cette édition.
Le Liban où le bilan humain s'alourdit et où le Hezbollah apparaît désormais décimé.
Oui, le mouvement chiite orphelin du leader Hassan Nasrallah tué vendredi dernier lors d'un raid de l'armée israélienne. Le numéro 2, Nassim Kassem, est sorti de son silence aujourd'hui alors que plus de 1000 personnes sont mortes, pour la plupart des civils, en une semaine de bombardement.
Nous irons également aux États-Unis dans cette édition.
Exactement, où l'ouragan Helene fait des ravages, plus de 100 morts sur la côte est américaine, un ouragan qui s'immisce dans la campagne présidentielle, nous dira Guillaume Nodin. En France, le Premier ministre Michel Barnier, vous le disiez, présente demain son discours de politique générale sans solliciter le vote de confiance de l'Assemblée, alors que de nombreux cadres du Rassemblement National avaient au rendez-vous au tribunal. Nous appellerons Laura Martel. Enfin, nous finirons, comme d'habitude, vous me direz, Romain, par un brin de musique. Vous, le grand fan de country, ne pourrez rester insensible aux accords de Kris Kristofferson, disparu à l'âge de 88 ans.
Le chef de la diplomatie française se trouve actuellement au Liban et c'est donc depuis Beyrouth, la capitale, qu'il a exhorté Israël à ne pas lancer d'offensive terrestre au Liban.
Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est dans la capitale libanaise. Une opération terrestre israélienne au Liban qui est de plus en plus redoutée, et le président américain Joe Biden qui appelle d'ailleurs ce soir à un cessez-le-feu. La tension est à son comble après l'assassinat ce week-end du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Beyrouth par ailleurs bombardé en son cœur ce lundi pour la première fois depuis le début des hostilités. Des bombardements qui ont fait plus de 1000 morts et 6000 blessés en une semaine, estime le ministère libanais de la Santé, et autour d'1 million de déplacés qui fuient les raids de l'aviation israélienne. On retrouve, comme promis, en direct de Beyrouth notre correspondante Laure Stéphan. Laure, vous avez assisté à la conférence de presse de Jean-Noël Barrot qui a tenté de tirer la sonnette d'alarme alors qu'une incursion terrestre israélienne au Liban serait imminente, selon le Washington Post.
Oui, le ministre des Affaires étrangères a assuré qu'un cessez-le-feu était encore possible. Et pourtant, une initiative en ce sens avait été proposée par Paris et Washington la semaine dernière. Elle avait été suivie 2 jours plus tard par l'énorme frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, dans laquelle Hassan Nasrallah a été tué, ainsi que d'autres commandants du Hezbollah. De la même manière, Jean-Noël Barrot a exhorté l'armée israélienne à ne pas lancer d'incursion terrestre au Liban. Et pourtant, celle-ci serait imminente. Le chef de la diplomatie française a aussi accusé le Hezbollah d'être largement responsable de la guerre qui se joue en ce moment, en ouvrant il y a un an un front à la frontière libano-israélienne au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Jusqu'ici, les diplomates occidentaux à Beyrouth déploraient l'ouverture de ce front, mais ils estimaient aussi que le Hezbollah était dans une forme de retenue, ne voulait pas lancer une guerre totale. Jean-Noël Barrot n'a pas répondu en outre à une question sur l'absence de condamnation claire de la part de Paris sur les morts de civils au Liban, des morts dans des frappes israéliennes que le ministre de la Santé libanais dénonce. Le ministre a enfin voulu rassurer la communauté française au Liban, alors que beaucoup s'étonnent du peu de communication actuelle. Il a assuré que des départs en avion allaient être facilités pour le rapatriement des ressortissants qui souhaitent quitter le Liban.
Merci Laure Stéphan, en direct de Beyrouth. Sur
toujours au Liban, Martin Guez, Naïm Kassem est sorti de son silence.
Oui, le numéro 2 du Hezbollah n'est pas pris la parole depuis la mort d'Hassan Nasrallah vendredi lors d'un raid de l'armée israélienne. Naïm Kassem qui assure que cette frappe a tué 4 personnes, dont plusieurs membres de la garde rapprochée de l'ancien chef du mouvement. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah qui affirmait aussi que la formation chiite continuera son combat pour soutenir Gaza et défendre le Liban, mais qui est resté flou sur plusieurs décisions stratégiques. Correspondance Paul Khalife.
Naïm Kassem avait manifestement un objectif principal, celui de rassurer les partisans du Hezbollah et la base populaire, encore sous le choc de la disparition de Hassan Nasrallah. Il a évoqué des plans de contingence activés, assuré que le système de commandement et de contrôle fonctionne parfaitement, que les commandants tombés ont été automatiquement remplacés par leurs adjoints et que les capacités militaires sont solides. Comme preuve de ces propos, Naïm Hassem a indiqué que les attaques contre Israël depuis la mort de Hassan Nasrallah se poursuivent au même rythme qu'avant, voire plus intensément. Il a prévenu que la bataille pourrait être longue et que le parti y est bien préparé, y compris en cas d'opération terrestre israélienne. Naïm Hassem a accusé les États-Unis d'être, je cite, « complices des massacres perpétrés par l'armée israélienne contre les enfants, les femmes, les secouristes, qui ne sont pas des combattants, mais qui sont tués quand même ». Même s'il a voulu être rassurant, le discours de Naïm Hassem laisse des questions sans réponse. Il n'a pas annoncé une date pour les funérailles de Hassan Nasrallah et n'a pas donné l'impression que le choix d'un successeur sera rapide. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
La situation au Proche-Orient et ses évolutions en direct que vous pouvez suivre sur notre live grâce à nos confrères de la rédaction Internet. Retrouvez sur notre site www.rfi.fr.
Et vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir. Et il est 13h06 à Washington, aux États-Unis. Le bilan de l'ouragan Helene ne cesse de s'alourdir. Martin Guez, au moins 100 morts dans le sud-est du pays. De quoi s'immiscer dans la campagne présidentielle.
Oui, face aux très lourds dégâts et à ce très lourd bilan, les deux prétendants, à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, qui a annoncé leur venue dans les États affectés. La tempête Helene et ses conséquences au cœur de notre dossier dans cette édition. Et on retrouve tout de suite en direct de Washington Guillaume Nodin. Bonsoir, ou plutôt bonjour chez vous, Guillaume.
Bonjour, bonsoir Martin.
Alors l'état le plus touché par l'ouragan Helene, c'est la Caroline du Nord.
Oui, avec au moins 39 morts, dont 30 rien que dans le comté de Buncombe, dans l'ouest de l'État, dans le massif des Appalaches, là où se trouve la ville d'Asheville. Là, ce n'est pas le vent qui a causé le plus de dégâts, puisque la tempête avait déjà baissé en intensité, mais la pluie, les fortes précipitations ont provoqué des inondations, des glissements de terrain, coupant des routes et emportant des constructions. Les réseaux de téléphonie sont également coupés, sans parler de l'électricité. Des centaines de milliers de foyers sont encore privés de courant à l'échelle du pays.
Oui, car Helene n'a pas seulement touché en Caroline du Nord, elle a également frappé dans plusieurs autres États.
Oui, la situation est un peu la même dans l'est de l'État voisin, la partie appalachienne du Tennessee, où il y a 4 morts, 25 morts en Caroline du Sud, 17 en Géorgie. En Floride, Helene, classée en catégorie 4 au moment de toucher terre, a frappé dans une zone relativement peu urbanisée, mais il y a tout de même 14 morts, alors que les habitants de la région sont désormais habitués. Ils savent d'ailleurs que la saison des ouragans n'est pas terminée.
Et le président américain Joe Biden qui parle déjà d'une tempête historique.
Oui, le président s'est exprimé il y a quelques minutes à la Maison-Blanche. Il explique qu'il y a encore plus de 600 personnes dont on est sans nouvelles. Il promet que les autorités fédérales resteront aux côtés des victimes aussi longtemps qu'il le faudra. Toutes les agences de l'État fédéral concernées sont mobilisées. Cela correspond pour le moment à 3600 personnes sur le terrain, mais c'est un chiffre qui va en augmentant.
Et le président qui va lui se rendre sur place.
Oui, probablement dans la semaine, dès que la situation le permettra, explique-t-il. Mais il précise bien que cela ne doit pas perturber les secours aux victimes et le travail des sauveteurs et des équipes d'intervention sur le terrain. Joe Biden s'adresse aux victimes et aux habitants des zones touchées en leur demandant de rester en sécurité et d'obéir aux consignes des autorités locales. Car, notamment en Caroline du Nord, les inondations ne sont pas terminées et certains cours d'eau n'ont pas fini de grossir. Il promet que l'administration Biden-Harris sera aux côtés des victimes tant qu'il le faudra.
Oui, Guillaume, car en pleine campagne électorale, les conséquences de la tempête et la réponse qui deviennent donc forcément des enjeux politiques.
Oui, dès hier soir, Donald Trump annonçait qu'il se rend sur place. Il sera dans quelques minutes dans la ville de Valdosta, une ville touchée en Géorgie qui est aussi un état clé pour la course à l'élection présidentielle. Le candidat républicain explique qu'il amène beaucoup de matériel de secours, y compris du carburant, de l'équipement, de l'eau et d'autres choses. Il avait aussi l'intention d'aller en Caroline du Nord, mais les accès sont limités. Et il ajoute sur son réseau social préféré qu'il s'y rendra bientôt, mais qu'il n'aime pas les informations qu'il reçoit sur le gouvernement fédéral et le gouverneur de démocrate de l'État qui font tout pour ne pas aider les habitants des régions républicaines, dit-il. Ce sont des accusations sans fondement, pour ce que l'on en sait. Dès hier soir, il s'en prenait à Kamala Harris en l'accusant d'être absente. La vice-présidente fait savoir qu'elle est tenue au courant de la situation. En campagne dans le sud-ouest du pays, elle a écourté son séjour et rentre plus tôt que prévu à Washington. Elle prévoit elle aussi, de se rendre sur place quand cela ne perturbera pas les secours.
Merci beaucoup, Guillaume Nodin, en direct de Washington sur RFI.
Et toujours aux États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU qui prolonge d'un an sa mission en Haïti.
Une mission de soutien à la police haïtienne, alors que les nouvelles autorités sont toujours confrontées à la violence des gangs. Une résolution adoptée à l'unanimité qui prolonge cette mission multinationale jusqu'au 2 octobre 2025. Elle est menée par le Kenya. Environ 400 policiers kenyans ont d'ailleurs été envoyés sur place, mais aussi quelques dizaines d'hommes venus de Jamaïque et du Belize. 600 hommes supplémentaires doivent être déployés dans les semaines à venir. En revanche, cette mission n'est pour l'instant pas requalifiée en opération de maintien de la paix de l'ONU, comme le demandent les dirigeants haïtiens à New York. Explication de Karine Houghton.
Finalement, la résolution demandant le renouvellement du mandat de la MMAS pour un an a été votée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil ce matin, mais une idée a été abandonnée par écrit, celle de réfléchir à sa mutation en opération de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Cela crispait Pékin et Moscou, et depuis que cela a été officiellement demandé par Haïti à l'Assemblée générale, les diplomates américains ont jugé non nécessaire d'en faire un point de blocage et l'ont omis du texte. Cet appel a d'ailleurs été réitéré par l'ambassadeur haïtien Antonio Rodrigue.
Il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. La transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Une telle transformation garantirait non seulement un financement plus stable par le biais des contributions obligatoires des États membres, mais permettrait également d'élargir les capacités de la mission à un niveau adapté à l'ampleur des défis actuels en Haïti.
Son homologue kényan a avancé que la stabilité en Haïti ne pourrait être assurée qu'une fois les causes profondes réglées. Le commerce illicite des armes provenant des États-Unis, malgré l'embargo, restant l'un des points rouges. Karine Houghton, New York, RFI.
Et il est 19h11 ici, à Paris, dans l'actualité française, cette décision du Premier ministre Michel Barnier.
Il ne sollicitera pas de vote de confiance ce mardi à l'Assemblée nationale. La Constitution ne lui oblige pas, mais c'est une tradition à l'issue de l'habituelle déclaration de politique générale. Conscient de la fragilité de son gouvernement, Michel Barnier, qui doit présenter la feuille de route des 40 nouveaux ministres entrés en exercice la semaine passée.
Et pendant que Michel Barnier se préparera donc à se rendre à l'Assemblée, ce sera demain, et bien plusieurs dirigeants du Rassemblement National, eux, avaient rendez-vous aujourd'hui au tribunal.
Et pas n'importe lequel, le tribunal correctionnel de Paris, pour l'ouverture du procès des assistants parlementaires européens, en présence notamment de Marine Le Pen et de 24 autres personnes, des cadres, des ex-eurodéputés et des assistants parlementaires qui sont accusés d'avoir participé à un large système de détournement de fonds. Des faits qui se seraient déroulés entre 2004 et 2016, à l'époque où le Rassemblement National s'appelait encore Front National. Les prévenus de leur côté contestent. Une première journée très attendue qu'a suivi pour RFI notre spécialiste police-justice, Laura Martel. Laura, Marine Le Pen était notamment entendue aujourd'hui lors d'une première audience dédiée aux questions de procédure.
Oui, au premier rang, tailleur noir, tête légèrement inclinée, Marine Le Pen suit avec attention le défi des prévenus, appelés un à un à la barre pour vérifier leur identité et écouter le rappel des faits qui leur sont reprochés. À l'appel de son nom, la chef de file du RN s'avance d'un pas décidé, mais sans se presser. « Je répondrai à l'intégralité des questions que le tribunal voudra bien me poser », énonce-t-elle d'un ton clair quand la présidente évoque son droit au silence. « Je compte prendre la parole », a tonné juste avant elle Bruno Gollnisch, ex-numéro 2 du Front National, venu à l'audience avec un épais dossier. Si la justice s'arroge le droit d'examiner le travail des assistants parlementaires, cela revient à contrôler aussi le travail des députés, ce qui est contraire au principe fondamental de la séparation des pouvoirs, dénonce-t-il au cours d'une suspension. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen, tout en se défendant dans un demi-sourire, de donner une conférence de presse en pleine salle d'audience, échange quelques minutes en plein prétoire avec les nombreux journalistes présents. Ce procès est celui de la liberté parlementaire qui intéresse tous les partis politiques, insiste la chef de file du RN, qui assure qu'elle viendra régulièrement à l'audience. Ça m'intéresse, j'ai une vision globale des enjeux et mon sentiment d'injustice est moins fort en étant ici, confie-t-elle.
Merci beaucoup, Laura Martel.
Le prestigieux prix Vaclav Havel, remis ce lundi, remis à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.
Et oui, opposante qui vit dans la clandestinité depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro en juillet. À 56 ans, elle devient la première latino-américaine a remporté ce prix des droits de l'homme, remis chaque année par le Conseil de l'Europe. La signification de ce prix est immense, a-t-elle réagi par visioconférence, affirmant que la dictature dans son pays se dirige vers une chute inévitable.
Enfin de la musique, mais pas seulement. Chris Christopherson est décédé.
Exactement, monument de la musique country, l'artiste américain qui était aussi acteur. Mort à l'âge de 88 ans, il aura côtoyé les plus grands compagnons de route de Johnny Cash, Janis Joplin ou Bob Dylan. Un homme de goût, tout comme vous, Romain Osui, et tout comme Edmond Sadaka, qui nous dresse le portrait de Chris Christopherson. I pull my harpoon out of my dirty red bandana.
Me and Bobby McGee, interprété ici par l'américaine Janis Joplin au tout début des années 70. Ce fut l'un des grands succès écrits par Kris Kristofferson, à qui l'on doit quelques autres classiques comme Sunday Morning Coming Down, qu'il avait sorti en 1972.
Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt.
S'il fut l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes country, Kristofferson s'était donc fait connaître aussi au cinéma par quelques rôles marquants, notamment aux côtés de Barbara Streisand dans Une étoile est née, un rôle pour lequel il fut récompensé d'un Golden Globe en 1976. Le chanteur Kris Kristofferson avait continué à se produire régulièrement sur scène jusqu'à sa retraite artistique en 2021. Il avait alors 84 ans.
I was running through the summer rain, trying to catch the evening train and kill that old familiar pain, weaving through my tangled brain. But when I tipped my bottle back, I smacked into a cop I didn't see.
Sympa,
sacrée voix, hein.
Ouais, sacrée voix, vous,
ça vous donne envie
le cowboy du style, ça doit vous
plaire
forcément. Romain Osuy, voilà, c'est avec Edmond Sadaka et Kris Kristofferson qui se termine cette édition. Je vous laisse donc avec Romain Osuy pour la suite des RFI.
Merci Martin Guest. C'était le grand journal du soir sur RFI. L'Autriche, au lendemain d'un tremblement de terre politique, on peut l'appeler comme ça, la victoire du FPÖ aux législatives, pour la première fois un parti d'extrême droite qui gagne des élections en Autriche. Alors ça ne veut pas obligatoirement dire que l'extrême droite sera au pouvoir. À quelle coalition est-ce qu'il faut s'attendre? Nous appellerons le journal La Croix, qui s'intéresse à ces questions dans son édition de demain. Puis nous irons au Royaume-Uni, où ce lundi est une date clé pour tous les défenseurs de l'environnement, puisque la dernière centrale à charbon va fermer ses portes dans le cadre de l'objectif britannique d'une énergie 100% propre en 2030. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
Avec une actualité chargée ce soir, on évoquait un grand nom de la country qui est décédé. Eh bien, on a aussi en sport la disparition d'une légende du basket africain et mondial, le Congolais Dikembe Mutombo. Il avait 58 ans.
Oui, la montagne Mutombo était vaincue par une tumeur au cerveau. Le pivot de 2m18, ainsi surnommé, né à Kinshasa et qui est rapidement devenu l'un des joueurs majeurs de la NBA en 18 saisons passées sur les parquets nord-américains entre 1991 et 2009. Dikembe Mutombo a ainsi été élu 4 fois meilleur défenseur, 3 fois meilleur contreur et 2 fois meilleur rebondeur. Il a même disputé 2 finales NBA en 2001 avec Philadelphie et en 2003 avec les Nets de New Jersey sans parvenir à décrocher le titre. Une longue et riche carrière qui aura débuté à l'Onatra de Kinshasa, un club congolais avec lequel il a affronté notamment la SEC d'Abidjan de Malik Dao, l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, très peiné par l'annonce de son défait, il l'a confié à Olivier Pron, Malik Dao.
C'est un séisme, hein. C'est un séisme d'apprendre comme ça qu'il est mort, Dikembe Mutombo, contre qui j'ai joué, hein, quand il jouait à BC Onatra du Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui. L'année qui a suivi justement ce match à Sec Mimosa contre Beto Onatra, il est parti aux États-Unis à l'université de Georgetown. Et puis après, on a vu la carrière qu'il a effectuée, tout ce qu'il faisait aussi pour l'Afrique, pour son pays, la RDC. Voilà, c'est une très très grosse perte.
Dikembe Mutombo, qui après sa carrière s'était en effet investi dans plusieurs missions caritatives, notamment RDC.
Alors en football, c'était le coup de théâtre du jour, hein, l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann.
Oui, Griezou a décidé de raccrocher le maillot tricolore 10 ans après ses débuts en équipe de France. 10 années de succès en bleu, ponctuées d'un titre de champion du monde en 2018, d'une autre finale mondiale il y a 2 ans en Qatar, sans oublier la finale de l'Euro 2016, tournoi à l'issue duquel le milieu offensif a été élu meilleur joueur. Antoine Griezmann, l'homme de base de Didier Deschamps, jusqu'à cet été lors de l'Euro en Allemagne, où le patron des Bleus l'a relégué sur le banc à 2 reprises. Un déclassement qui l'a sans doute conduit à arrêter aujourd'hui sa carrière en bleu. Griezou, qui, selon l'ancien joueur marseillais Marc Libra, aura été l'un des rouages essentiels du milieu de terrain tricolore de ces dernières années. Marc Libra.
Pour moi, Matuidi, Pogba, Griezmann restera pour moi ce trio. Alors après, bien sûr que Kanté est arrivé, mais pour moi, Griezmann fait partie de 2016-2018. Alors 2021, c'est encore à part. Mais un joueur hyper important. Je me rappelle de matchs au Vélodrome face aux Allemands en Euro 2016. Je me rappelle de matchs très importants en 2018 où il y a un collectif, il y a quelque chose. Et ça tourne en grande partie autour de lui. Mais c'est, on parle souvent. Moi, j'ai connu les années 80. J'ai connu le Quatuor, Fernandez, Gires, Platini, Tigana. Ben, ces trois-là, il faut les mettre, je pense, au Panthéon. Et Griezmann fait partie de ça.
Antoine Griezmann, 33 ans, qui s'arrête donc en bleu après 137 sélections et 44 buts marqués.
C'est un sacré hommage. On se projette à présent, toujours en football, hein, sur la deuxième journée de la Ligue des Champions. Ça va débuter demain, mardi.
Avec notamment un délicat déplacement pour le Paris Saint-Germain à Londres face aux Gunners d'Arsenal. Un vrai test pour les Parisiens après avoir difficilement battu Gérone au Parc des Princes. Mais un test qu'ils devront passer sans l'un de leurs atouts majeurs, Ousmane Dembélé, laissé à la maison, puni pour raisons disciplinaires, semble-t-il. Écoutez les explications de l'entraîneur parisien Luis Enrique, apparemment assez remonté contre lui.
Si quelqu'un de manière... Vous voulez que je vous parle de Dembélé? Eh bien c'est simple, si un joueur ne fait pas son devoir envers l'équipe, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à jouer. Je considère que cette semaine et ce match sont importants, c'est un moment capital pour le club et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions. Ça vaut pour tout le monde, je l'ai donc mis à l'écart car je veux le meilleur pour l'équipe. Voilà, c'est ma décision.
Luis Enrique au micro de Cédric de Oliveira. Ousmane Dembélé, c'est cette saison 4 buts inscrits et 4 passes décisives en Ligue 1.
Eh bien merci beaucoup pour ce journal des sports. Eric Mamrout, 19h, bientôt 21 minutes ici à Paris. On parle montée des populismes en Europe, illustration flagrante en Autriche, où le FPE a remporté les législatives de dimanche. Alors c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite gagne un scrutin national, ça c'est le premier enseignement. Et puis ce qui alerte, c'est le score obtenu par le FPE, 28,8% des suffrages, bien au-delà de ce qu'annonçaient les sondages. Bonsoir Alain Guilmol.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste au service Monde du journal La Croix, en charge des affaires européennes, et vous publiez un article sur ce sujet dans votre édition à paraître demain. Alors les enjeux après cette élection sont nombreux, on va les évoquer, mais d'abord un mot de l'homme qui se trouve à la tête de ce parti, le FPE. Il s'agit de Herbert Kickl. Qui est-il ?
Oui, c'est vrai que c'est un nouveau venu à la tête de l'extrême droite autrichienne. C'est quelqu'un qui en fait a longtemps travaillé dans l'ombre du parti. Il était la plume qui écrivait les discours de Jörg Haider, le leader historique du FPÖ, le Parti de la Liberté, le parti d'extrême droite autrichien. Il a 55 ans et en fait, ça fait seulement 5 ans ou 6 ans à peu près qu'il est apparu en pleine lumière, d'abord comme secrétaire général du parti, le parti qui a été pris dans un certain nombre de tourments, de scandales, et donc c'est lui la figure qui a émergé à la tête du parti. Et il a été ministre de l'Intérieur d'un gouvernement précédent, lorsque l'extrême droite était en coalition avec les conservateurs, entre 2016 et 2019. Et puis, c'est l'homme qui, maintenant, a mené le FPÖ à la victoire, puisqu'il a amené ce parti à un score historique, le plus élevé qu'il ait eu lors d'une élection nationale. Et donc, il arrive en tête du scrutin. Il est arrivé en tête ce dimanche lors des élections législatives.
Est-ce que c'est lui qui a mobilisé les électeurs autrichiens ou est-ce que c'est les idées qu'il a développées, les thèmes?
Alors c'est les deux, parce que enfin lui est un fin tacticien, quelqu'un qui ne joue pas du tout la modération, mais qui au contraire a essayé de fédérer tous les mécontentements en ayant un discours climato-sceptique, anti-vax et puis surtout anti-migrants. Il joue beaucoup sur cette carte-là et il semble que c'est une carte qui a fonctionné auprès des Autrichiens. Il y a une espèce de, enfin c'est un vent qu'on sent souffler un peu partout en Europe. Et qu'il a particulièrement su capter auprès de l'électorat autrichien. Il a cette capacité à fédérer les mécontentements comme ça. Et donc, il a joué sur ses peurs, sur ses colères, et il en a profité électoralement.
Alors, la question qui se pose ce soir, Alain Guilmol, c'est de savoir qui va gouverner en Autriche après ces législatives, puisque le FPE ne peut pas gouverner seul, il faut une coalition, mais le parti qui a gagné les législatives, donc le FPE, pourrait être exclu. Comment on peut expliquer cela et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en Autriche?
Alors oui, effectivement, il faut s'attendre à des négociations maintenant qui vont être compliquées parce que la situation n'est pas simple en effet. C'est-à-dire, il a gagné, mais il a aussi beaucoup de... Enfin, c'est un personnage qui est très clivant et il y a aussi une bonne partie des Autrichiens qui ne veulent pas de lui. Donc il a gagné avec un tiers des suffrages, à 29%. Et maintenant, la question est de savoir que vont faire les autres partis. Alors, on peut dire la solution est surtout entre les mains des conservateurs, puisque les conservateurs sont arrivés second avec 26%. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils peuvent s'allier avec le FPÖ et donc, quelque part, faire la courte échelle à l'extrême droite pour que l'extrême droite arrive au pouvoir. ou ils peuvent décider de s'allier avec d'autres partis d'opposition, les socialistes, les libéraux, et de constituer une coalition anti-extrême droite. Et pour l'instant, les conservateurs n'ont pas du tout livré le fond de leurs intentions. Il est bien difficile de lire et de comprendre ce qu'ils vont faire, quelle va être leur stratégie. Une solution intermédiaire pourrait être de faire une alliance avec l'extrême droite, mais sans la personnalité de Kickl qui dérange, qui gêne parce qu'il est particulièrement radical. Donc, il pourrait essayer de trouver une personnalité modérée au sein du parti et de faire un gouvernement qui serait comme ça un attelage peut-être un peu plus compatible. Là, en fait, la solution est entre les mains du président. Le président, qui lui est issu du Parti des Verts, c'est lui qui va devoir inviter une personnalité à former le gouvernement. Et pour l'instant, on ne sait pas vers qui il va se tourner. On sait qu'il a une forme d'allergie contre l'extrême droite et qu'il n'a pas du tout envie de leur ouvrir la porte du pouvoir. En même temps, il sera un peu obligé. Bref, vous voyez, la situation est assez compliquée et il va falloir qu'elle se décante encore pendant quelques jours.
En Autriche, l'extrême droite remporte une victoire historique aux législatives. Votre article à retrouver donc demain dans La Croix, demain mardi, et puis évidemment sur votre site internet. Merci Alain Guilmol.
Merci à vous.
C'est peut-être un tournant en matière écologique ce soir, ce lundi soir. Pour la première fois, un pays membre du G7 va officiellement renoncer au charbon. La dernière centrale du Royaume-Uni va en effet fermer ses portes, et cela dans le cadre de l'objectif britannique de parvenir à une énergie 100% propre d'ici 2030. La centrale de Ratcliffe-on-Soar, dans la région de Nottingham, était en activité depuis près de 60 ans. Et donc pour ses habitants, évidemment, c'est une page qui se tourne. Notre correspondante Emeline Vin s'est rendue sur place.
Les 8 immenses tours de refroidissement de la centrale à charbon de Ratcliffe-on-Soar dominent le paysage.
Quand vous rentrez chez vous après un long trajet et que vous apercevez ces tours, vous savez que vous êtes à la maison.
John a grandi à 5 km de la centrale, la dernière du pays à produire de l'électricité au charbon.
Il y a une vingtaine d'années, j'ai failli devenir apprenti en ingénierie électrique. On était une centaine à postuler. On nous a montré ces trois énormes turbines au travers desquelles passait la vapeur. Les gens avaient l'air d'adorer leur travail, ils avaient un bon régime de retraite et il y avait même un terrain de golf sur le site.
Devenu jardinier, le quadragénaire souligne avec fierté que le Royaume-Uni est le premier pays à renoncer totalement au charbon. La fin d'une époque, soupire Ray State, ancien ingénieur ferroviaire qui acheminait le charbon jusqu'à Ratcliffe.
On parlait du roi charbon. Notre révolution industrielle s'est basée sur le charbon. La génération d'énergie, toutes nos usines fonctionnaient au charbon.
Aujourd'hui, délégué de la centaine d'habitants du village, le retraité enchaîne les rendez-vous avec les dirigeants de la centrale. Son inquiétude, l'avenir du site au milieu d'une zone rurale tranquille.
Nous ne savons pas qui va s'installer, quel type d'entreprise. Que va-t-il se passer si ce ne sont pas des entreprises vertueuses, mais des indésirables? Un centre de distribution, par exemple?
L'entreprise n'a pas détaillé ses plans. Le charbon ne pèse plus qu'un pour cent dans le mix énergétique britannique. Pour l'analyste Jess Ralston du think tank Energy and Climate Intelligence Unit, le Royaume-Uni opère tout de même un pas de géant.
Cela montre au reste du monde que c'est faisable. On nous promettait des blackouts, des coupures de courant, des discours qu'on entend aujourd'hui au sujet des énergies renouvelables, alors que le solaire et l'éolien sont désormais peu chers, que des batteries commencent à arriver pour stocker l'énergie. La fin du charbon au Royaume-Uni marque vraiment un tournant mondial.
Mais le Royaume-Uni a-t-il les moyens de parvenir à une énergie propre en 2030?
Nous aurons du travail. Il faudra développer beaucoup plus le renouvelable, l'éolien en mer. Il faudra s'assurer que le réseau de transmission de l'électricité peut supporter cet apport. C'est ambitieux, mais nous sommes nombreux à penser que c'est possible avec de la volonté politique.
Le nouveau gouvernement travailliste a déjà annoncé la création d'un fournisseur d'énergie renouvelable public pour approvisionner en électricité plus de 6 millions de foyers d'ici 2030. Emeline Vin, de retour de Ratcliffe-on-Soar, RFI.
Et retour à Paris, 19h, bientôt 29 minutes. Dans une minute, ce sera l'heure du débat du jour où l'on parlera politique française avec cette question. Est-ce que le Rassemblement national est le maître du jeu alors que le parti est au cœur d'un procès qui s'est ouvert ce lundi? Eh bien, il semble tenir en joue le gouvernement. Qu'en est-il? Qu'est-ce que cela augure alors que demain a lieu la déclaration de politique générale qui sera prononcée à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre Michel Barnier? Restez avec nous, on revient dans quelques secondes sur Radio France Internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
octobre rose, cancer et travail, quelles recommandations, quelles options?
Mercredi,
distinguer le vrai du faux sur votre cerveau.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.